Bonsoir et bon début de semaine à tous. L'Assemblée nationale a voté dimanche 15 juin 2025 en faveur de la demande de poursuite judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutsamba, à la suite du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Fernand Mbonde, sur 363 députés votants, 322 se sont prononcés en faveur des poursuites, 29 ont voté contre et 12 se sont abstenus. Cette décision fait suite à la présentation du rapport de la commission spéciale temporaire mise en place pour analyser le réquisitoire du procureur. Le ministre Mutsamba est accusé des détournements présumés de 19 millions de dollars américains initialement alloués au projet de construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Tchopo. Quelle lecture faites-vous de la décision prise par les députés nationaux? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 16 juin 2025. Participe au débat, Meshak Mandefou, professeur à l'université de Kinshasa, faculté de droit, député national, élu de Kiazumba au Kasaï central. Il est secrétaire permanent adjoint de l'Union sacrée de la Nation. Il a été président de la commission spéciale qui avait auditionné le ministre Constant Mutsamba à l'Assemblée nationale. Meshak Mandefou, bonsoir, professeur.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Aussi avec nous dans ce débat, Manix Iyenda, il est avocat. Bonsoir monsieur Iyenda.
Bonsoir madame.
Et Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Maître Willy Wenga, bonsoir.
Bonsoir madame.
À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sous la 104.9. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, le ministre de la Justice, Constant Mutsamba, est désormais contraint de présenter sa démission conformément à l'article 166 de la Constitution après que l'Assemblée nationale a autorisé dimanche l'ouverture des poursuites judiciaires à son encontre sur les 363 députés présents, 322 ont voté pour, 29 contre et 12 se sont abstenus. Le ministre est accusé de détournement des fonds publics, notamment d'une avance de 19 millions de dollars dans un marché des gré à gré non validé lié à la construction d'une prison à Kisangani. Reportage Michel Kifinda.
Les députés ont voté à la majorité absolue pour l'autorisation des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice, comme le souligne le rapporteur Jacques Joly.
La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votés à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Il est autorisé la demande au fait de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutsamba Tungunga.
Constant Mutsamba devra donc déposer sa démission afin de permettre à la justice de faire librement son travail, conformément à l'article 166 de la Constitution.
Merci Michel Kifinda pour ce reportage. Professeur Meshak Mandefou, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, faculté de droit. Vous êtes député élu de Kiazumba au Kasaï central, secrétaire permanent adjoint de l'Union sacrée de la Nation. Vous avez présidé la commission qui a auditionné le ministre Constant Mutsamba à l'Assemblée nationale. En quelques lignes, professeur, pouvez-vous nous expliquer la procédure qui a mené à cette décision de l'Assemblée nationale?
Merci beaucoup, madame. Il faut rappeler aux auditeurs que l'émission a aussi un caractère pédagogique.
Exactement.
C'est pourquoi vous aviez posé la question tendant à avoir la démarche pour aboutir à cette décision. Il faut rappeler que l'article 166, alinéa 2e, que vous aviez évoqué de la Constitution, fait de la saisine de l'Assemblée nationale une obligation, du fait que le procureur général qui voudrait instruire sur un dossier qui concerne un membre du gouvernement, saisit l'Assemblée nationale. Et cela s'est fait conformément au règlement. Et notre règlement intérieur prévoit des types de procédures. D'abord, comme le procureur a demandé l'autorisation aux fins d'instruction, c'est comme ça que l'Assemblée avait mis en place la commission avait statué, la commission est obligée d'inviter toutes les personnes prenantes. Nous avions entendu tour à tour Monsieur le procureur général, on avait entendu Monsieur le ministre d'État, chacun a présenté ses moyens de droit à la phase de demande d'instruction. Alors la commission avait, au travers ses conclusions soumises à l'Assemblée plénière, proposé à ce que le ministre puisse se présenter. Donc on avait autorisé au procureur afin d'instruire l'affaire qui concernait le ministre d'État. Et alors le ministre à son tour s'était présenté et le procureur, comme dit la procédure en la matière, qu'après avoir instruit et s'il estime que les faits sont avérés, il peut revenir devant l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation aux fins de poursuite. Donc c'est comme ça que vous avez vu, le procureur était obligé de revenir devant la représentation nationale et que la représentation nationale a mis en place, les bureaux a mis en place une commission, laquelle commission temporaire, spéciale et temporaire, a statué sur le fait et a donné les résolutions telles que vous l'aviez suivi hier devant la chaîne nationale et devant vos ondes, vraiment. Voilà. C'est un peu ça, l'essence ou la procédure qu'il faut suivre pour une telle démarche.
Alors, le vote a été écrasant quand même, il faut le dire, avec 322 députés sur 363 en faveur des poursuites. Professeur Meshack Mandefou, voilà, comment vous interprétez ces résultats? Est-ce un signe de la volonté de l'Assemblée nationale de lutter contre l'impunité?
Non, au fait, c'est dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle que l'institution Assemblée nationale a fait son travail. Et lorsque le ministre, il faut rappeler ici que le ministre est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc personne n'a statué sur sa culpabilité. Ici, c'est une procédure voulue par notre constitution et corroborée par le règlement intérieur de notre chambre et voulue également par la loi portant la loi portant procédure devant la Cour de cassation qui prévoit une procédure en la matière. Donc c'est comme ça qu'on a saisi l'Assemblée. Le reste, si le ministre présentait ses moyens de droit, si le ministre est innocent, comme il est présumé jusqu'à preuve du contraire, et que les juges estiment que les faits ne sont pas avérés, il bénéficiera de son acquittement. Donc, pour nous, nous disons, on a fait un travail parce que c'était une demande. Le fond ne concerne pas l'Assemblée nationale, il faut le préciser. L'Assemblée nationale répond à une demande. La demande provient d'une autre institution, le pouvoir judiciaire, bien sûr. Donc, on a répondu.
Vous avez analysé la demande et vous avez trouvé qu'il fallait des poursuites contre le ministre, sur base de quels éléments? Qu'est-ce qui vous a poussé à libérer, entre guillemets, hein, le ministre
Madame, il faut préciser d'abord, j'ai été président d'une commission temporaire mise en place pour donner l'autorisation aux fins d'instruction. Uh-huh. Et donc, j'ai les devoirs de réserve parce que je suis aussi détenteur de certains secrets au regard des questions, au regard des pièces qui était à ma possession. Mais en donnant la réponse, ici vous avez posé la question, c'est parce que l'Assemblée nationale, c'est une institution. Donc l'institution au pouvoir judiciaire, via le procureur général, a saisi. C'est une procédure mise en place par la Constitution. L'Assemblée n'est pas là pour commencer à analyser, voilà les éléments constitutifs, tout ça. Oui, donc là, ici, c'est le moyen, c'est le PG qui poursuit. Au fur et à mesure, quand il va présenter la personne présumée innocente jusqu'à preuve du contraire devant son juge naturel, et elle présentera aussi ses moyens de droit, et c'est à la fin que le juge jugera de sa culpabilité ou rien. Donc au stade actuel, nous on n'a fait que respecter la procédure, et la loi ou la constitution veut que une telle procédure passe au vote. C'est comme ça que vous avez vu, la majorité des membres de l'Assemblée nationale ont voté pour que le ministre puisse être traduit devant un juge pour qu'il présente ses moyens de droit.
Et quelles sont les prochaines étapes après ce vote à l'Assemblée nationale?
Non, l'Assemblée nationale a
vous êtes limité juste à autoriser.
Et on a autorisé.
Et le reste, c'est la justice.
C'est la justice, parce que nous, on ne peut pas s'interférer, parce que la Constitution nous interdit. Donc la séparation des pouvoirs doit être respectée. L'Assemblée nationale n'a fait que respecter la procédure prévue par la Constitution et d'autres lois de la République. On se limite par là. Le reste, si le pouvoir judiciaire qui poursuit, bien sûr, estime que non, le ministre d'État est innocent, il sera innocenté devant son juge. Nous, on n'est pas là. Nous, on ne peut pas même s'interférer. On se limite à ce qui a été demandé.
Maître Manix Yenda, vous êtes avocat. Comment vous avez accueilli cette décision de l'Assemblée nationale?
Merci beaucoup, madame. Au-delà de mon statut d'avocat, je suis aussi un acteur politique, ce qui me permet d'analyser la question sous un angle ambivalent, l'aspect juridique, et de l'autre côté, les aspects politiques qui entrent dans la ligne de compte. Il est vrai, l'Assemblée nationale a fait son travail, l'Assemblée nationale a respecté la procédure telle que indiquée par la Constitution et son règlement d'ordre intérieur, mais dans le fond, il y a l'action, il y a la responsabilité politique de chaque député engagé dans le vote qui permet à la même Assemblée nationale de pouvoir autoriser le poursuite contre les ministres de la Justice. Et les votes de l'Assemblée nationale a corroboré effectivement le réquisitoire du ministère public, qui a soutenu un certain nombre de griefs, des éléments à charge du ministre de la Justice, qu'il a présenté devant l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale a entériné la démarche du ministère public. Mais il faudrait d'abord rester sur le contenu même. Les griefs pour lesquels le ministère public poursuit le ministre de la Justice. Vous allez voir dans ce dossier, madame, c'est vrai, on parle du détournement des deniers publics. On parle de non-respect des règles des passations de marché public. On parle de non-obtention de validation par madame la Première ministre, qui est une autorité de tutelle sur cette question de passation de marché public. Pourtant, dans le fond, il est vrai, les réquisitoires de ministère public a été motivé, expliqué et soumis devant l'Assemblée nationale, mais un accent de taille. Les réquisitoires du ministère public n'élient pas le juge. Les réquisitoires du ministère public n'attestent pas la culpabilité de la personne réprochée. Ici, dans le cas sous examen, les ministres de la Justice. Mais parlons même du dossier en soi. Moi, je me demande, si l'on reproche au monsieur Moutamba pour avoir commis un certain nombre de fautes d'ordre administratif, mais pourquoi on s'introduit dans le pénal? Parce que, vous savez, la sanction sur le plan administratif, c'est la nullité. Je me demande si Moutamba n'a pas opté pour un mode requis pour respecter les règles des passations de marché public, encore que le gré à gré est même légalisé. Les gré à gré doivent être motivés sur base des circonstances pour lesquelles on doit opter pour le gré à gré. Et cela est bien indiqué par la loi qui organise les matières de passation des marchés publics. Et c'est au ministre, effectivement, d'expliquer pourquoi il a opté pour les gré à gré. Mais dans le réquisitoire du ministère public, il a mentionné autant de choses. On reproche à M. Moutamba pour n'avoir pas brandi un avenant alors que le contrat a été modifié. On dit que le contrat venait de 39 millions de dollars et que l'on a modifié le contrat rabattu à 29 millions de dollars, alors que l'avenant n'existe pas. Pourtant, nous savons, il y a un procès verbal qui a attesté effectivement la modification du dit contrat. Deuxième élément, on dit que M. le ministre Moutamba n'a pas obtenu le quitus de la Première ministre. Pourtant, M. le ministre Moutamba obtient un document qui atteste qu'effectivement, il avait déposé sa lettre pour solliciter la validation, les quitus de la Première ministre. Mais par là, il faudrait rester sur les impératifs de la loi. On dit, en déant 10 jours, et dépasser 10 jours si la Première ministre ne valide pas, et l'autorisation est d'office. C'est l'article 20 du manuel des procédures.
Puisque c'est elle la chef du gouvernement, pourquoi ne l'avoir pas contactée?
Non mais justement, il avait contacté la Première ministre pour valider, et d'après la loi, si la Première ministre ne valide pas en déant 10 jours, la validation est d'office.
Mais selon un communiqué de la primature, la première ministre aurait demandé à M. Moutamba de compléter certains éléments avant la validation.
Alors, la complémentarité des éléments n'a jamais été une faute administrative, madame. Encore que lorsque vous demandez à un ministre de compléter les éléments, cela voudrait dire au départ, vous reconnaissez l'existence du dossier. Cela voudrait dire au départ, vous reconnaissez les termes des références qui constituent l'objet du dossier. Encore que ce dossier a été soumis pour un check-up institutionnel au niveau du Conseil des ministres, qui a validé. Aujourd'hui, on parle du détournement des deniers publics. Madame, vous savez quand on parle de détournement des deniers publics ? Il s'agit de fonds publics de l'État. Et pour que détournement existe, il faut réellement que le fonds de l'État soit détourné. La question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que le fonds public de l'État ont été détournés ? Est-ce le fonds public de l'État se trouve quelque part dans un compte ? Si oui, alors laissez Moutamba tranquille. Si vous reprochez, comme je l'ai dit au début de mon intervention, à Moutamba pour des fautes administratives, ces fautes-là ne peuvent pas amener au pénal. Encore que
vous
j'entends
que c'est un acharnement contre.
Mais bien sûr que oui, c'est un acharnement politique. On sait la posture du ministre de la Justice. On connaît le contexte dans lequel ce ministre a été choisi, encore qu'il n'est pas du ressort de l'Union sacrée de la nation. Il a été choisi dans un contexte très particulier, par la confiance du président de la République, qui voudrait effectivement nommer un homme à situation pour administrer une thérapie de choc afin d'éradiquer cette justice souffrant d'une maladie chronique. Mais voilà que le ministre apporte cette thérapie de choc qui dérange les mafieux de la République, qui dérange ceux qui sont dans la posture de compromission aux valeurs sacrées de la République. Et aujourd'hui, on sacrifie Moutamba. Vous savez pourquoi moi je reproche les députés nationaux ? Et c'est cela leur responsabilité politique. Les députés font de l'Assemblée nationale une machine à broyer, une caisse de résonance, et on dépouille l'Assemblée nationale de tout son statut d'un temple, et véritable temple de la démocratie, pour rendre le compte à qui on veut. Pourquoi l'Assemblée nationale fait le deux poids deux mesures ?
322 députés quand même, tous ces 322, on veut la Moutamba, maître Yenda ?
Non mais les mal, qu'est-ce que Moutamba a fait de mal ? Effectivement, cette
il
thérapie de choc.
Il va s'expliquer devant la justice.
Je ne refuse
on
pas.
On ne dit pas qu'il est coupable.
Personne n'a dit qu'il est coupable, mais ici, nous analysons sur la question de la responsabilité politique. Aussi des députés, parce que les députés ont autorisé. Pourquoi ils ont autorisé ? Et pourquoi pour le cas de Moutamba, on a autorisé, et pour certains cas, on n'autorise pas ? Madame, vous savez que dans ce pays...
Vous parlez de Nicolas Kazadi.
Pas que Nicolas Kazadi, il y a bien deux dossiers, même le dossier 100 jours. Les voleurs n'existent pas, mais 56 millions du peuple congolais disparus. Le dossier Tilejelou, les voleurs n'existent pas, mais l'argent du peuple congolais disparu. Le dossier relatif à la Covid-19, le voleur n'existe pas, mais l'argent du peuple disparu. Le dossier des lampadaires et forages, et effectivement, vous avez cité le nom de Nicolas Kazadi, le voleur n'existe pas, mais l'argent du peuple disparu. Mais pour le dossier de Constant Moutamba, oui, vous avez découvert le voleur, les détourneurs des deniers publics. Pourtant, l'argent du peuple existe. L'argent du peuple est dans un compte bien connu. L'argent du peuple n'a pas été
un compte
détourné.
Privé, qui n'est pas un non, mais compte...
Quand vous dites un compte privé et que vous vous arrêtez à ces niveaux-là, attention, ça risque de toucher la sensibilité du peuple congolais. Il faut préciser qu'il s'agit d'un compte d'une entreprise censée exécuter le dit projet. Parce que l'argent, en réalité, a été versé dans le compte du ministère.
Une entreprise sans adresse, selon les éléments qu'on a.
Madame, je vous ai dit... Les réquisitoires du ministère public n'influencent pas le juge. Encore que la Constitution dit, le juge ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. Le juge sont indépendants. Le juge tranche en ce qui concerne les décisions de justice par son ultime conviction. Et non, les réquisitoires du ministère public, encore que le ministère public est parti au procès. Lorsqu'on parle du réquisitoire du ministère public, c'est une forme de plaidoirie du ministère public pour soutenir tous les chefs d'accusation à charge de Constant Moutamba. Mais cela ne voudrait pas dire que lorsque le ministère public présentera son réquisitoire devant le juge et que Moutamba sera condamné. Pas du tout.
Merci Malik Soyenda, Maître Willy Wenga, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Comment vous analysez, Maître Wenga, la décision prise par les députés nationaux?
Merci beaucoup Madame, je salue d'abord mes co-débatteurs, je salue le professeur Meshach Mandefou, je salue aussi mon confrère Yenda, et je note avec satisfaction que pour une fois l'Assemblée nationale s'est comportée en véritable Assemblée nationale, c'est-à-dire au lieu de regarder les aspects politiques du dossier, à examiner d'abord l'intérêt de la procédure à ce qui concerne le dossier lui présenté par M. le procureur général pour la Cour de cassation. Ce qu'il faut noter, madame, c'est qu'on reproche toujours aux députés nationaux, aux politiciens de se protéger, de telle sorte que tout le travail de la justice tendant à obtenir une autorisation auprès des élus du peuple pour poursuivre ou instruire ou poursuivre contre un membre du gouvernement ou un membre de l'une des chambres, mais cette fois-ci, l'Assemblée nationale s'est surpassée et il faut noter que c'est pour la première fois dans l'histoire de la RDC qu'un ministre de la Justice en fonction soit non seulement inculpé, mais aussi soumis aujourd'hui à une poursuite devant le juge demain. Je note une avancée, ne fût-ce que par ces dossiers-là, que l'Assemblée nationale s'est distinguée par rapport à son rôle, parce que ce n'est pas pour rien que la Constitution et la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation lui ont reconnu à l'Assemblée nationale ou au Sénat, selon qu'il s'agit d'un député ou d'un sénateur, le pouvoir quand même d'autoriser l'instruction et à l'issue de celle-ci et la poursuite. Donc, ma première impression, c'est une impression de satisfaction, pas parce qu'il s'agit de M. Moutamba, mais parce qu'il s'agit du droit, et que au moins ça vous permet de vivre à une procédure qui a commencé et voir comment ça va se terminer, s'agissant d'un procureur général pour la Cour de cassation, qui est maintenant aujourd'hui appelé à clôturer son dossier en termes de dernier réglage afin de faire fixer cette cause devant les juges, lequel juge n'est rien d'autre que la Cour de cassation.
Alors, Maître Willy Wenga, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous suivent en ce moment sur la FM et même sur la page Facebook de Radio Capi. Beaucoup, beaucoup de réactions. Il y a un auditeur, François, qui nous suit depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba, qui pense qu'il y a... Quelle lecture faites-vous de la divergence dans les décisions de l'Assemblée nationale entre le dossier Moutamba et Nicolas Kazadi?
Il faut noter que les deux dossiers ne se ressemblent pas. Dans l'un des dossiers, il y a le ministre de la Justice qui est poursuivi pour détournement de deniers publics, on peut dire présumé ou quoi que ce soit, mais l'infraction c'est celle de l'article 145. Du Code pénal livre 2, détournant le denier public, Kazadi a été poursuivi pour faux bruit. Et l'Assemblée nationale, qui est l'organe d'autorisation, d'instruction ou de poursuite, est la seule à apprécier pourquoi ici elle doit autoriser et là, elle doit rejeter la demande. Donc, la question d'appréciation revient à l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure, vous avez posé la question au professeur Meshach Mandevou, qui s'est mis sous réserve de sa responsabilité en tant que président de la commission temporaire qui a statué sur les cas. Donc, c'est ici, moi, je n'ai pas un jugement personnel pour dire... Là, on a été courageux, là, on a été, je ne sais pas moi comment, mais je note que les deux dossiers ne sont pas les mêmes, les deux individus ne sont pas les mêmes, ils n'assument pas les mêmes fonctions, ne sont pas poursuivis pour le même fait, ne sont pas poursuivis pour la même infraction, et que et les éléments contenus dans le dossier de M. Moutamba semblent s'avérer être des éléments qui ont convaincu l'Assemblée nationale, déjà au niveau de la Commission, et le procureur général à poursuivre avec les enquêtes, avec l'instruction préparatoire préliminaire, tout, afin de mettre fin à l'instruction et à mettre en accusation le ministre. Donc, chacun peut avoir son, sa manière de voir les choses. Mais pour moi, j'estime que les deux dossiers ne se ressemblent pas.
Alors, vous avez suivi Maître Manix Yenda qui parle de fautes administratives. Hein, pour le cas Moutamba, on parle des fautes administratives. Comment on se retrouve au pénal?
Et il faut reconnaître que mon confrère Manix Yenda a regardé le dossier avec des yeux. D'abord, les yeux d'un politicien apparemment proche du ministre Moutamba, d'une part, et d'autre part, avec les yeux d'un civiliste. Vous savez qu'en matière pénale, on ne peut pas négliger les faits. En matière pénale, on peut partir de simples faits et aboutir à une infraction. Lorsque on soutient que des simples fautes administratives, on ne pouvait pas conclure à une situation pénale, c'est un regard civiliste, mais le regard d'un pénaliste doit considérer tout ce qu'on considérait comme faute administrative comme étant des actes qui concourent à la commission de l'infraction. Vous voyez, madame, comment pouvez-vous expliquer que vous puissiez signer un contrat, par exemple, pour la construction d'une prison qui n'a pas été retenue par le Conseil des ministres? Comment pouvez-vous parler d'un montant pour une parcelle qui n'a pas été achetée, qui n'est située nulle part? Comment pouvez-vous conclure un contrat avec une société qui apparemment existe, mais en réalité, cette société-là ne fera rien pour construire une prison inexistante? Comment expliquer que le fonds qui était destiné à réparer les préjudices causés par la guerre à Kisangani soit amené vers la construction d'une prison fictive? Comment expliquer que dans le contrat, l'entrepreneur vous donne un numéro de compte, mais lorsque l'argent est déboursé, ça se trouve dans un autre compte, dans une autre banque? Tous ces éléments-là qu'on peut considérer comme des fautes, parce que mon confrère s'est limité juste aux aspects du marché de gré à gré qui a été critiqué, mais n'a pas regardé les autres comportements suivants et qui constituent les éléments sur lesquels certainement s'est fondé le ministère public, la Commission et l'Assemblée nationale, et certainement demain le juge. Et ce qui est vrai, c'est que la présomption d'innocence est toujours là, et devant le juge, c'est là où il y aura la vraie bataille entre le ministère public et la défense, pour que le ministère public soutienne sa thèse de culpabilité et la défense soutienne sa thèse d'innocence. Mais pour l'instant, il ne faut pas avoir un regard simpliste et civiliste par rapport à ces dossiers qui, au-delà des fautes administratives, contiendraient, à mon sens, des éléments préparatifs et consommés de l'infraction de détournement.
On va ouvrir notre standard pour donner la parole à ces nombreux auditeurs qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même en dehors du pays. On va aller à Kolwezi, dans la province de Lualaba, pour écouter cet auditeur.
Chouk Mouigiroa à partir de Kolwezi. Dans cette affaire, il y a eu vice de procédure sur le plan administratif. Vu que cette somme est bloquée dans un compte, est-ce qu'on peut continuer à nuancer qu'il s'agit d'un détournement alors que 0$ n'est jusque-là utilisé sur les millions de dollars dont on accuse le ministre Moutamba d'avoir détourné? Je pense que le ministre d'État fait objet d'un acharnement et un complot politique, car tout d'abord, le poste qu'il occupe ne lui revenait pas vu que son parti politique n'est pas membre de l'Union sacrée. Politiquement parlant, l'Assemblée nationale constituée à 90% par les députés de l'Union sacrée a pris sa revanche car il occupait le poste qui revient aux alliés de l'IDPS, car en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Et c'est pourquoi on l'a sacrifié par rapport à son collègue Nicolas Kazadi, sauvé par les députés de l'Union sacrée, alors que ce dernier a dénoncé publiquement la mauvaise gouvernance et le détournement des deniers publics par les acteurs du régime en place, sans oublier les dossiers forage et lampadaire qui fait toujours couler encre et salive.
Professeur Meshak, c'est un avis d'un auditeur qui nous suit à partir de Kolwezi.
Il faut d'abord préciser que l'Assemblée nationale est saisie une REM, hein, comme on l'a dit. Donc l'Assemblée était liée à l'exploit du procureur, donc les réquisitoires. Et donc, dire qu'il y a eu vice de procédure, je vous ai dit ici, l'Assemblée nationale n'avait pas pour mission analyser le fond, seul le juge. Lorsque le procureur ira soutenir son action devant le juge, il dira, voilà ce que je remarquais, et le ministre présentera 6 mois de droit. Nous l'avions dit ici que le ministre est présumé innocent. Et que ce que l'Assemblée nationale a fait, c'est dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, et que la Constitution fait de l'autorisation de l'Assemblée une obligation. Donc, parce que c'est un membre du gouvernement, vous êtes sans ignorer que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, dire que parce que il y a eu acharnement, parce que Nicolas Cadon, c'est des faits différents. Rappelez-vous, lors du début de notre législature, Nicolas Cazadi, l'Assemblée nationale a autorisé dans l'affaire Lampadaire que les gens sont tentés de raconter ici. L'Assemblée nationale avait autorisé qu'il y ait instruction sur les dossiers Lampadaire et Forage. Le reste, nous, l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas nous immixer dans les affaires judiciaires parce que les trois pouvoirs sont séparés comme la Constitution le démontre. Et dire que 90%, dire que c'est l'acharnement parce qu'il n'est pas issu de l'Union sacrée, non. Parce que nous, l'Union sacrée...
Une décision motivée, hein.
Nous disons, effectivement, parce que c'est une décision motivée, parce que l'Assemblée nationale, respectueuse des normes, des textes qui nous régissent, a autorisé. Le ministre étant innocent, il va se présenter devant le juge. Il va présenter ses moyens des droits. Le reste, nous, on a fait notre travail. Parce que, rappelez-vous, les gens qui ternissent toujours l'image de l'Assemblée. Il faut rappeler que le ministre d'État, Moutamba, c'est un député national. Il a été élu. Nous avions battu campagne pour lui quand il voulait être rapporteur adjoint. Les gens ignorent. S'il s'agissait d'acharnement comme il le pense, on le ferait quand on était à l'Assemblée. Il a été nommé dans un pouvoir discrétionnaire plutôt du président de la République. Il l'a choisi pour le mettre à la place. Il a fait son travail et aujourd'hui il est reproché d'un certain nombre de faits. Et il est présumé innocent. Il reviendra au ministre d'État avec ses conseils de se présenter devant le juge pour présenter ses moyens de droit. Parce que nous, l'Assemblée nationale, les gens nous traitent de tout. Complaisance, des poids, des mesures, non. C'est des faits différents. Les statuts comme le ministre Moutamba, il est membre du gouvernement, alors que Nicolas Cazadi, c'est un député national. Vous avez suivi la commission, les deux commissions censées analyser les deux réquisitoires. Ils ont donné, ils ont motivé leur décision. Aujourd'hui, dire que l'Assemblée nationale a boutiqué, a bradé son pouvoir du fait d'autoriser l'instruction, du fait d'autoriser les poursuites contre les ministres, nous disons non.
Il y a une main noire derrière cette décision.
Non, mais écoutez, madame, s'il y a une main noire, regardez la majorité des gens qui ont voté. Vous n'allez pas nous dire que non, tout le monde, même l'opposition, même la majorité. L'Assemblée nationale, c'est l'expression du peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple veut savoir... Est-ce que le ministre a raison ou pas? S'il a raison, devant le juge, il sera acquitté. Et qui, s'il a tort, il sera condamné. Donc le plus important, c'est que les devoirs de redevabilité qu'ont les élus du peuple voudraient à ce que, lorsqu'il y a une telle question, il y a une situation, il y a la clameur publique, qu'on sache de quoi il est question. Parce que bientôt, là, nous, déjà, nous sommes en vacances. Lorsque la question viendra, on va dire quoi? Parce que, Maître Willy Wenga a rappelé ici, c'est l'argent destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. En d'autres termes, c'est le peuple qui sont concernés directement. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un fait pareil, nous, comme Assemblée, on analyse en toute objectivité. J'ai vu mon co-débatteur Manix, que je connais très bien, pas aujourd'hui, des années, il connaît très bien. On a milité ensemble avec lui à l'université de Kinshasa. Il connaît comment nous sommes un peu sceptiques à tout ce qui concerne la République. On a travaillé en âme et conscience. Lorsque l'Assemblée nationale a commencé à statuer sur les dossiers, le ministre d'État Moutamba, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Le matin, on nous a parlé qu'il nous a donné l'argent. Ça circulait partout. Et non, il a corrompu les députés, ainsi de suite. Et nous, on est restés sereins. Les soirs, ça chargeait. Non, non, on nous a vu quelque part en train de prendre de l'argent. Nous, on n'est pas là. On est là que pour travailler pour les comptes de la nation congolaise. Le peuple qui nous avait mandaté pour aller dans cet hémicycle attend de nous les réponses au travers des préoccupations qui se soulèvent dans la vie pratique.
Merci, professeur. On va se rendre cette fois-ci à Bounia, dans la province de l'Ituri, pour écouter cet autre auditeur.
Alpha Ben Sirac, depuis la ville de Bounia. À mon humble avis, cette décision est un acte fort en matière de redevabilité politique. Elle peut aussi être analysée sous plusieurs angles, à savoir, primo, une avancée dans une lutte contre l'impunité. Ces votes montrent une volonté de briser l'impunité au sommet de l'État. Montesquieu disait, une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Appliquer la loi à tous, sans distinction, était fondement de la justice. Segundo, un signal fort pour la gouvernance. Accuser un ministre de la justice des détournements constitue une atteinte grave à la crédibilité des institutions. En répondant à l'appel du procureur, le député affirme que la morale publique doit primer sur les calculs politiques. Texte sur un test pour la justice congolaise. Le passage du dossier au judiciaire met à l'épreuve l'indépendance des magistrats. Aristote disait, le juge est la bouche de la loi. Si la justice est libre de ses décisions, cette affaire pourra devenir un exemple. Comme l'a dit Kofi Annan, les bons gouvernements dépendent de l'obligation de rendre compte.
Maître Yenda, que pensez-vous de l'avis de cet auditeur de Bounia?
Je suis bien d'accord que cet auditeur exprime le vœu de l'effectivité d'un état de droit. C'est le vœu de nous tous. Nous voulons d'une justice équitable et non une justice partielle. Et d'ailleurs, il y a un principe basique en droit pénal qui dit « nullum crimen ». Nous, la poéna, sine lege, il n'y a pas d'infraction en dehors de la loi. Il n'y a pas de peine en dehors de la loi. La question que nous nous posons ici, et à Maître Willy Wenga, et à l'honorable député qui est en face de moi, qu'est-ce qui a été détourné? Ici, on ne parle pas du détournement de services. Ici, on ne parle pas du détournement de biens saisis. Ici, on parle du détournement des deniers publics. Et même lorsque vous lisez l'article 145, d'après l'esprit du législateur, il parle du détournement effectivement lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un fonds public de l'État qui a été orienté pour de fins autres que ce qui a été prévu. Ici, cela n'est pas le cas. Parce que lorsqu'on parle du détournement, madame, il faudrait qu'il y ait 5 éléments majeurs. Des éléments qui constituent même l'infraction du détournement.
Lesquels?
La qualité de la personne. Il faut que la personne ait revêtu un statut d'un agent public de l'État, ce qui est le cas pour le ministre de la Justice. 2. La nature du bien détourné. Ici, dans le cas sous examen, il s'agit des fonds publics de l'État. 3. Acte matériel du détournement. Il faudrait que l'infraction soit matériellement consommée. Il faudrait que les biens dont il s'agit soient réellement détournés. Et 4. Il faudrait qu'il y ait de l'intention. J'ai entendu Maître Willy Wenga et je comprends pourquoi il est un tout petit peu tendancieux sur cette question. Il se penche du côté du réquisitoire du ministère public et je l'ai compris parce qu'il m'a même taxé de plus proche de Constant Moutamba alors que je réfléchis avec toute indépendance possible. Je suis un Congolais, l'argent qui a été détourné, si oui, c'est l'argent du peuple congolais. Ici, nous mettons dans ces débats l'intérêt suprême du peuple. Vous parlez de l'intention. Comment on peut reprocher une intention criminelle contre Constant Moutamba alors qu'il avait sollicité la validation de la première ministre? J'ai même entendu Maître Willy Wenga disant que le projet n'a jamais été soumis au Conseil des ministres. D'où tire cette affirmation si ce n'est pas le fait de s'accrocher au réquisitoire du ministère public? Pire encore, Maître Willy Wenga affirme ici dans cette radio de la paix, la radio Okapi, que dans ce dossier, nulle part s'était mentionné que ces fonds soient orientés pour une activité de construire une prison. Madame, pour le besoin des rappels, cet argent en question ici,
Il s'agit d'un fonds qui vient d'une décision de justice. Il s'agit de la Cour internationale de justice. Et la Cour internationale de justice, c'est elle qui a orienté le fonds vers le compte, parce qu'il s'agissait d'une décision de justice, vers le compte du ministère de la justice. Et dans ces fonds, il y a une répartition. Et dans ces répartitions, il y avait une quotité qui a été prévue pour construire les prisons, encore que les cas de la construction de prisons est une priorité, est une urgence. Les ministres dont on reproche aujourd'hui, vous savez, il est même sous les collimateurs du même ministère public qui, après la poursuite de Constant Mutamba, lui est en train de traquer les prisonniers que Mutamba avait libérés. Pourquoi il ne l'avait pas fait pendant que Mutamba était ministre? Encore une fois, ça frise de l'acharnement politique. Et donc, aujourd'hui, dire que l'argent qui a été destiné pour indemniser n'a pas pour vocation construire des prisons, ça, c'est une fausseté. Parce que, vous savez, la prison centrale de Makala a été construite pour une capacité d'accueil de 1500 prisonniers. Aujourd'hui, nous dépassons un effectif de plus de 1500. Il y a nécessité ou pas? Allez à Kisangani, tous les prisonniers de l'Est sont orientés vers les prisons de Kisangani, voire même les prisonniers militaires. Et les tentatives d'évasion là-bas dans la prison de Kisangani, c'est la monnaie courante. Et lorsque le ministre, encore que depuis le 30 juin 1960, depuis l'époque coloniale, aucun ministre de la justice n'a osé ne serait-ce que construire une petite prison dans le cadre des réformes. Mutamba l'a osé, Mutamba l'a fait, et cela devient un crime. Et vous dites que Mutamba a détourné. Comment vous l'appellerez détournement du moment où les deniers publics ne sont pas détournés? Si vous dites tentative du détournement, je vous dirai d'où vous tirez cette nouvelle définition du détournement, parce que le législateur n'a pas prévu une tentative du détournement. Je vous ai rappelé un principe basique, le nullum crimen, nulla poena, s'il ne lègue pas d'infraction, si la loi ne la prévoit pas. Aujourd'hui, on comprend le problème de Mutamba. C'est un problème de complot politique. En parlant de complot politique, madame,
un règlement de compte
patent et visible. Comme preuve, vous avez vu, lorsque Constant Mutamba était en train de discuter avec le fils du ministère public, enfin, du vice du procureur général, et pourquoi le fils du PG a exposé les conversations privées, qui étaient même dans le sens de la paix, heureusement que nous sommes dans une radio de la paix, parce que Mutamba, en tant qu'humain, au-delà du statut du ministre de la Justice, il a sollicité la paix envers le père du fils. Et le fils expose avec l'intention de nuire. Vous savez que ministre Mutamba, depuis qu'il est ministre, il n'a pas effectué, ne serait-ce qu'un moindre voyage à l'étranger, sauf l'unique voyage qu'il a effectué à Cuba pour des raisons de santé. Mais aujourd'hui, après l'autorisation de poursuite, les PG ont saisi la DGM pour empêcher à M. Mutamba de sortir du pays. Ça, encore
mais
une fois,
ça se fait avec toutes les personnes qui doivent, qui ont des problèmes avec la justice.
Madame, vous dites que ça s'est fait avec toutes les personnes qui ont des problèmes de justice.
C'est que je sache. Hein.
Moi, je voudrais vous présenter un fait comparatif patent. Pour ne pas comparer le fait de Nicolas Kazadi à celui de Constant Mutamba, je compare le fait de Nicolas Kazadi à celui de Jean-Marc Kabound, tous les deux députés nationaux. Ils bénéficient des mêmes privilèges, des mêmes immunités. Encore qu'ils sont reprochés sur le même fait. Propagation de faux bruits, outrage au président de la République, etc., etc. Mais pourquoi Jean-Marc Kabound a été arrêté? Parce qu'aujourd'hui, l'argument de l'Assemblée nationale, on veut préserver le droit de s'exprimer. Le droit à la parole d'un député. Parce que si aujourd'hui on poursuit Nicolas Kazadi, on va outrager le droit d'expression d'un député national. Pourquoi vous l'avez fait alors pour Jean-Marc Kabound, alors que c'était le même fait? Parce que les allégations faites par Nicolas Kazadi sont sur le même proportionnalité qu'aux allégations faites par Jean-Marc Kabound, qui traitait de la même manière que Nicolas Kazadi le régime de Tshisekedi comme un régime de jouissance. Pourquoi deux poids, deux mesures? C'est en cela que nous regardons la responsabilité politique des députés nationaux.
Merci, je vais vous donner la parole, professeur, ne vous inquiétez pas. On va écouter d'abord ce dernier auditeur qui est en ligne. Il nous appelle depuis Bukavu, Sud-Kivu.
C'est Augustin Tendilong, je suis à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. La décision prise par nos députés nationaux est vraiment à féliciter pour mettre fin à l'impunité dans notre pays. Mais quand cela ne tienne, je doute fort que les présumés détourneurs soient seuls dans cette affaire, car nous ne devons pas oublier que la rétrocommission avait été ovationnée au sommet de l'État. On prenne qui pourra.
Maître Willy Wenga, réaction.
Merci beaucoup. Je pense que l'auditeur de Bukavu que je salue a raison de saluer lui-même la décision de l'Assemblée nationale. Rapidement, je voulais dire ceci à nos auditeurs, que tout ce que j'ai avancé comme argument est tiré de discussion à l'Assemblée nationale. C'est la plénière de l'Assemblée nationale qui nous a révélé que le fonds n'était pas destiné à la construction de la prison. C'est la plénière de l'Assemblée nationale qui nous a révélé que les comptes dans lesquels se trouverait aujourd'hui la somme d'argent n'étaient pas les comptes visés par le contrat. Et on a tendance à, ici, et là mon confrère Manix, que j'ai salué encore, je le connais très bien, il a tendance à minimiser ce que nous appelons la tentative punissable. Lorsqu'il pose la question de savoir qui a détourné et où se trouverait l'argent, ni t'était le CNRF, l'argent quitterait déjà le compte et prenait déjà une destinée inconnue. C'est ça le plus grand problème. Et chez nous, en droit pénal, il y a ce que nous appelons les iter criminis. Iter criminis, qu'on appelle souvent les chemins vers les crimes. C'est-à-dire que tout ce qu'on considère comme des fautes administratives ne sont rien d'autre que le chemin qui mène vers les crimes. Et il n'y a que le délinquant lui-même, la personne qui commet une infraction, qui peut faire un repentir actif et faire en sorte qu'une infraction ne puisse pas être consommée. Mais lorsque, par exemple, par un fait extérieur, on a empêché la commission d'une infraction, l'infraction-là est punissable. Donc, je salue la bravoure de l'Assemblée nationale. Et là, j'ai dit, et j'insiste, ce n'est pas parce qu'il s'agit de son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, mais pédagogiquement parce qu'il s'agit d'un membre du gouvernement contre qui une action est ouverte. Et j'ai dit, il est présumé innocent, et devant le juge, il devra surmonter ou remonter sa défense jusqu'à démontrer comment les actes, les fautes administratives ne sont pas des iter criminis. Et ça, c'est important. Mais ce qui est fondamental ici, et je pense que Maître Yenda y a répondu lui-même à sa manière, comme qualité, la personne à qualité, la nature, c'est le fond, l'acte matériel, le confrère, c'est arrêté à consommer, même est tenté. Parce que si l'argent n'a pas quitté le compte, ce n'est pas du fait de monsieur le ministre de la Justice, mais du fait des services. Les services qui ont arrêté, qui ont bloqué les comptes dans lesquels se trouvait cet argent. Sinon, l'argent était déjà parti. L'argent avait déjà quitté les comptes de l'État congolais. L'argent était déjà amené ailleurs. Et là, bravo aux services. Là, je salue le premier avocat général qui est le secrétaire exécutif de CNRS. Et ça, c'est tellement important. Donc, ce ne sont pas des choses à négliger. Le conseil que moi je prodigue ici,
ça sera c'est
que
plus
la défense
hein.
puisse se préparer à démontrer à suffisance la bonne foi. Parce que lorsqu'on parle de l'intention criminelle, c'est là encore que les Romains doivent s'empoigner, parce qu'on doit dire pourquoi, alors qu'il avait un compte à la Royal Bank, vous avez préféré mettre l'argent dans un compte à l'Equity Bank. Qu'est-ce que vous visiez en faisant ceci et non cela? Qu'est-ce que vous cherchiez en faisant ceci et non cela? C'est ça la démarche de l'intention criminelle. Il faut regarder les dossiers de notre ministre de la Justice avec le regard pénal. Le regard pénal. Pas le regard politico-civil. Le Merci. Regard pénal.
Merci.
Et ici, il a droit à la défense. Il est présumé innocent, mais vis-à-vis du ministère public. Et pour le ministère public, il est présumé coupable. C'est un avis pédagogique, mais le procès qui sera ouvert doit tenir compte du droit de la défense. Le procès doit être équitable. Le procès doit nous révéler les vérités cachées.
Merci, Maître Willy Wenga. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Professeur Meshack, mandez-vous votre mot de la fin. Vous m'aviez demandé la parole tout à l'heure.
Hein. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je voulais juste rappeler que l'émission a un caractère pédagogique et que dans ma chapelle comme pénaliste, je vous ai dit d'entrée de jeu ici, on a été responsable d'une structure mise en place par l'Assemblée qui détient les secrets d'instruction et que devant votre micro, je me ferai le devoir de garder silence devant certaines questions sous peine de révéler, étant donné que nous sommes encore à la phase d'instruction et que jusque-là, nous n'avons pas encore eu les procès publics pour voir comment est-ce que la procédure s'était déroulée, comment est-ce que la personne présumée innocente va se défendre. Donc, la comparaison que l'on fait entre l'Assemblée nationale qui avait laissé Jean-Marc Kabound, celui-ci, non, il s'agit d'une législature passée. Ici, nous avons été saisis d'entrée de jeu quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a autorisé les poursuites, en fait, l'instruction des dossiers Forage et Lampadaire, il faut le rappeler ici, et que la justice a fait son travail. Il a été classé hors état de poursuite, monsieur l'honorable Nicolas Kazadi. Ce n'est pas à nous, l'Assemblée nationale, de venir justifier. Et il faut également rappeler ici que les questions à tendance politique que les amis soulèvent, j'ai vu Maître Manix qui est revenu là-dessus pour parler de la responsabilité politique des élus du peuple. Nous avons...
Il n'est pas le seul, hein.
Ah oui, effectivement, nous disons ceci, c'est un signal fort. Nul n'est au-dessus de la loi. Si le ministre qui est présumé innocent s'estime être outillé avec les éléments de défense, attendons voir le procès. À ce moment-là, on dira voilà, l'Assemblée a fait sa part. Parce que le même auditeur qui vous dérange, si l'Assemblée avait réservé une fin de nos procédés, ils allaient dire quoi? Voilà l'Assemblée nationale corrompue. Ils ont commencé avec la commission mise en place. Nous, l'Assemblée nationale, comme vous avez demandé de conclure, ensemble avec les autres, nous connaissons bien que c'est dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, dans le cadre d'une demande, et que la suite ne concerne pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale attend voir le ministre présenter ses moyens de droit devant son juge naturel. S'il est innocent, et si les fonds, comme l'estime Maître Manix, là ce n'est pas notre problème, parce que si je vais répondre à sa préoccupation, il me pousse à donner certains éléments. Encore une fois de plus, c'est un bon débat, et nous restons sereines, nous disons que le ministre est présumé innocent, ouais. Attendons voir le procès pour savoir voilà si c'était une faute civile, administrative, ok, qu'on voit devant le juge.
Merci, professeur Meshack Mandez-vous. Maître Yenda, votre conclusion.
Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Maître Willy Wenga par rapport aux éléments constitutifs de l'infraction du détournement. Lorsqu'il a évoqué la question de l'acte matériel du détournement, il a évoqué l'élément tenté. Tenté relève de l'intention. Parce que vous savez, parmi les éléments qui constituent une infraction, nous avons l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Et ici, dans l'acte matériel du détournement, il faut que l'infraction soit matériellement consommée. Et ce qui n'est pas le cas. Et enfin, un autre élément que j'avais oublié d'évoquer parmi les éléments qui constituent l'infraction du détournement, c'est même les préjudices. Dans une infraction du détournement des deniers publics, la victime, c'est l'État. Quel est ce préjudice qui a été causé à l'État pour que l'État soit considéré comme une victime d'un acte du détournement? Et je voudrais regarder les députés nationaux dans toute sa responsabilité politique. Parce que j'ai vu, on veut se débarrasser et de Moutamba et de ses réformes. Je me demande, quelle serait la suite alors
mais
du projet de loi?
Mais comment la procédure jusqu'à ce niveau?
La procédure... elle est faite selon les règles.
Elle est respectée.
La procédure, elle est respectée. Mais l'animus, l'intention de député, c'était une intention politique.
C'est comme ça que je voudrais poser une question à un député qui est en face de moi. Quelle serait alors la suite du projet de loi soumis par Mutamba sur la création d'un tribunal pénal, économique et financier? C'est vrai, ça a été recevable au niveau de l'Assemblée nationale, mais je me demande si on va se débarrasser et de Mutamba et de ses réformes.
Mais il y a un vice-ministre, de la justice.
Non, mais malheureusement, lorsque Mutamba avait libéré les prisonniers, considérant que c'était les ministères de la justice et non Mutamba, pourquoi le ministère public traque aujourd'hui les prisonniers qui ont été arrêtés de manière illégale?
Merci. Juste un mot.
Nous sommes vraiment
à la fin de la mission.
Le professeur risque de dévoiler les secrets. C'est comme ça qu'elle lui-même dit que le professeur risque de dévoiler les secrets. Je n'entre pas dans le fond, mais je voulais juste une parenthèse par rapport à la question qu'il a évoquée sur le projet de loi. Donc, le projet de loi a été déclaré recevable. Donc, c'est en commission. Je suis membre de la PAJ. Donc, au moment voulu, nous allons analyser. Ça n'a rien à faire avec. Il faudrait faire la part des choses entre la personne et l'institution.
Merci beaucoup, chers invités. Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Étienne Lissoumbou, Benjamin Moudoumbi, Clément Chimanga. Merci à Pierre Viassinois qui était à la mise en onde. Martin Seboujangui a supervisé ce programme, coordination et présentation. Kéline Couté est restée branchée sur la fréquence de la paix.